Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Bonjour, c'est Constance. Pas de panique, votre épisode arrive juste après cette présentation. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021, plus lumineuse que la précédente. Vous commencez à avoir l'habitude, maintenant j'aime vous partager une proposition de podcast juste avant mon épisode. Si vous êtes comme moi, tombé dans la marmite des podcasts, et que vous manquez de temps pour partir à la recherche d'épisodes inspirants dans cette vaste bibliothèque que sont les plateformes de podcast, je vous ai déniché la solution idéale. Il existe un podcast tout fraîchement créé qui a pour objectif de vous faire découvrir les épisodes inspirants, bouleversants ou même marrants, bref, marquants et à ne surtout pas rater, et ce, tout sujet confondu. Allez, trêve de suspense, je vous révèle le nom de cette pépite. Il s'agit de Génération Podcast. Chaque dimanche, Anne Fleur vous propose une sélection de 3 épisodes qui l'ont touché, marqué ou ému, et un dimanche sur deux, elle vous propose une rencontre avec un ou une hôte de podcast pour vous dévoiler les coulisses de vos podcasts favoris. Alors ce n'est pas le meilleur tips de l'année 2021, vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, place à l'épisode.
I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground.
Vous écoutez la deuxième partie de l'épisode 13 de la saison 2 du podcast Les Enfants Vont Bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir la suite de l'épisode d'Aurélia et Charlotte, et je sais que vous l'attendez avec impatience et pour cause. Aurélia et Charlotte ont eu le cran, le courage et la confiance pour pratiquer un geste courant dans le milieu de la PMA, mais peu ou pas pratiqué dans une chambre à coucher. Et c'est là qu'on se rend compte de la puissance de notre désir d'enfant dans nos couples. Alors bien sûr, Aurélia et Charlotte se sont renseignées, se sont formées et se sont entraînées pour cela. Elles ont fait appel à des professionnels compétents et compréhensifs qui leur ont transmis leur savoir, qui les ont rassurés et qui les ont guidés. Et c'est dans ce genre de cas qu'on se rend compte que finalement, tous les professionnels médicaux ne sont pas à mettre dans le même panier et qu'ils sont bien plus nombreux qu'on ne le croit à plaider notre cause et à nous aider dans l'ombre. Le message que je souhaite faire passer ici est de ne pas vous décourager face à des accompagnants obtus. Passez votre chemin, vous trouverez la perle qui fera de vous des parents. Je vous le redis, cet épisode est époustouflant. J'ai été bluffée par la sérénité qu'a procuré à Aurélia et Charlotte un bon accompagnement, mais surtout par la force de leur conviction et de leur certitude, combinaison qui s'est avérée payante, puisque dès le premier essai en insémination intra-utérine, elles ont eu le bonheur de découvrir que leur petite Amae s'était nichée au creux de leur ventre. PS, vous l'aurez compris, j'ai fait une petite erreur de définition dans l'intro de l'épisode précédent. Aurélia et Charlotte ont commencé par une insémination intravaginale et ont poursuivi par une insémination intra-utérine, le tout en version artisanale. Mea culpa, c'est ça aussi de rédiger mes intros en étant sans arrêt entrecoupée par les filles. Et je ne vous raconte pas comme elles sont pipelettes. Allez, je vous souhaite une bonne écoute.
En fait, on avait déjà lu avant de commencer, enfin pendant toute cette phase de recherche, que certaines femmes, certains couples passaient par des inséminations intra-utérines, soit aidées par des professionnels, voilà, qui faisaient ça, ben oui, forcément dans l'illégalité et qui soutenaient un peu ces couples-là à leur façon, ou soit de le faire soi-même.
Oui, alors il faut rappeler que l'insémination intra-utérine, c'est effectivement la méthode qui est utilisée dans le cadre des inséminations lors des PMA. Oui. C'est une manipulation médicale qui est particulière.
Ah oui, on est clairement dans la manipulation médicale. Mm-mm. Là, on n'est plus juste dans la question de la petite seringue qu'on met dans le vagin. Là, c'est clair qu'on passe un cap.
On passe le col, juste.
Exactement, on passe le col.
Ben, techniquement, c'est ça. Et, ouais. Et toi, qui justement était dans le... Ouais, pas forcément hyper sereine, hyper rassurée, tu envisages cette option-là.
Ouais.
C'est fou.
Parce que je crois que... Je dis beaucoup « je », évidemment, on est deux.
Oui,
c'est vrai,
évidemment.
Que comme c'est mon corps à ce moment-là, je suis maître de beaucoup de choix, on va dire. Mm-hmm. Donc à ce moment-là, Sarah, dans tous les cas, elle était prête, peu importe la méthode, elle était là, elle était à fond. Voilà. Et avant de faire les premières inséminations, pardon, on avait vu que certaines le faisaient, mais ça nous impressionnait beaucoup. On disait, il y a quand même des risques.
Oui, évidemment. Bah oui, je m'en doute.
Il y a quand même des risques. On lisait certaines qui étaient vraiment contre en disant, mais vous ne vous rendez pas compte. Enfin, des risques encourus en faisant de telles choses, et d'autres qui disaient, mais c'est jouable, c'est jouable.
Les risques, si on peut les identifier, c'est essentiellement des risques bactériens, non?
Oui, c'est ça.
Oui.
De faire passer derrière le col des bactéries, et là...
C'est dangereux,
oui. Oui, oui, oui. On va dire, avant le premier échec, on s'était dit, ben non, on va faire quand même, on va limiter les risques, on va rester sur de l'insémination intravaginale, on va rester à la hauteur de ce qu'on sait faire, sans prendre trop de risques. Mais une fois qu'on a eu le premier échec, c'est vrai qu'on avait l'impression qu'on ne mettait pas toutes les chances de notre côté et que peut-être que si on faisait cette méthode-là, on y arriverait. Sachant que pour le coup, au niveau des statistiques, forcément, le taux de réussite était bien plus élevé.
Ah oui, évidemment. Et Cryos, dans le matériel qu'ils vous fournissent, ils vous fournissent la canule qui vous permet de passer le col ou pas?
Oui.
Si on l'a demandé, oui, carrément. Ah oui. Oui. Après, donc, effectivement, ça donne, ça donne oui. envie de le tester.
Non, mais c'est ça. On a un peu toutes les cartes en main, là. Enfin, c'est... Et on nous écrit noir sur blanc qu'en faisant ça, il y a plus de chances.
Ah oui, en plus, c'est précisé.
Ben, oui. Alors, eux ne nous le disent pas ouvertement comme ça, mais voilà, sur tous ces groupes où on échange beaucoup, c'est évident. Et en même temps, dans les parcours PMA, en clinique, ils passent le col. C'est pas pour rien.
Ah ben non, c'est pas pour rien. Clairement, voilà. Ça change tout.
Donc, on s'est dit, pourquoi pas? Mais pour ça, il faut qu'on se prépare.
Ouais.
On va pas y aller à l'aveugle en se disant, on verra bien si ça passe et si ça se passe bien pour moi. Mmh. Donc, à ce moment-là, on en a parlé avec plusieurs professionnels, des proches à nous et notre sage-femme. Enfin, voilà, pas mal de monde. On avait besoin d'être rassurés quand même, de savoir si on était complètement folle ou pas.
Forcément.
On nous a pas mal rassurés. Certaines personnes nous ont aidés à rédiger en fait un protocole à suivre, geste après geste.
D'accord.
Qu'on a fait valider à d'autres en disant, est-ce que tu es sûre que si on fait ça, c'est bon, on ne prend pas de risque?
Oui.
Voilà. Donc, une fois que le protocole était bon, il fallait être en capacité de
le faire, de le réaliser. Mmh.
Donc là, on s'est lancé, on a eu un rendez-vous avec une sage-femme. Ce rendez-vous qui est juste mythique pour nous. On a fait une sorte de cours d'anatomie.
D'accord.
Avec pour cobaye moi-même. Mm-hmm. Donc, on a expliqué à Charlotte comment poser un spéculum, comment trouver le col. Comment savoir visuellement s'il est ouvert, à quel stade on en est de l'ovulation. Et ensuite, il y a des schémas, savoir comment poser le cathéter, combien de centimètres une fois qu'on est passé au col. Voilà, on a tout étudié de A à Z.
Mais elle devait avoir une pression, Charlotte.
J'imagine.
Enfin, moi, j'en tremble là.
Souvent, je vous dis, je... n'aurais jamais pu faire ce que tu as fait.
Ouais, tu m'étonnes.
Auquel elle me répond, je n'aurais pas fait ce que tu as fait non plus. Voilà, donc on s'est bien trouvé.
Au moins, voilà, c'est ça.
Donc, on s'est préparé. Donc, on a commandé, il nous fallait forcément du matériel.
Mm-hmm. On a commandé... Oui, parce que tout n'est pas fourni, évidemment.
Ah non. Non, non, parce que Cryos, en fait, n'ont pas de souci pour nous envoyer un cathéter. Mm-hmm. Mais on est dans le flou. On ne dit pas qu'on va le faire nous-mêmes en tant que particulier,
oui,
ils ne seraient pas d'accord.
Donc, oui, évidemment.
Juste, voilà, ça reste très flou. Lors de la commande, j'ai demandé un cathéter qui puisse le rajouter. Ils l'ont rajouté. Puis voilà, on ne va pas chercher plus loin dans nos échanges. Mmh. Et donc, il manquait tout le reste. Donc, on en a commandé sur Internet. J'ai été acheter des choses en pharmacie. On nous a fourni des spéculums. s'est préparé, on s'est entraîné, donc à se chronométrer, bien évidemment. Parce que...
Oui, parce qu'il y a toujours le délai de 15 minutes.
Et oui, donc il ne faut pas se louper. Tout ça en préparant mon corps, quoi. Enfin, vraiment. Donc Charlotte s'est entraînée sur la table, hein, avec tout le matériel, pour l'ouvrir, préparer les compresses,
ça
la
fait
pince.
Vraiment, c'est impossible.
On a beaucoup rigolé.
Oui, tu m'étonnes.
Donc, on s'est beaucoup préparé. La seule chose auquel elle ne s'était pas préparée, c'était, alors dit comme ça, c'est un détail, mais à mettre des gants stériles. Vu qu'on n'en avait pas beaucoup, je lui avais dit, bon, mais ça, tu le feras le jour J. Tu vas pas aller, voilà. Donc, elle s'était entraînée, par contre, pour tout le reste, à tenir avec la pince, les compresses, bon. On était prête, on a passé commande, on a reçu donc de nouveau notre tank qui a stationné dans le dressing.
Et toujours avec deux paillettes ou une seule cette
alors
fois-ci
là, qu'une seule. Là, on avait pris une seule paillette avec une motilité un peu plus grande.
D'accord.
Parce que il y en avait plus.
Il y en avait plus et par contre, du coup, ça engendre un coût plus important.
C'est ça, à peu près le double.
Oui.
Donc, on s'était dit, on va quand même mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, on y va, on en prend une, mais une un peu plus grande. Donc, on a continué à étudier mon cycle, faire mes petits tests d'ovulation tous les jours. Donc, je les faisais tous les matins et quand on commençait à approcher du moment fatidique, j'en faisais un peu plus rapproché, à la maison, au travail. Vraiment, on était sur tous les fronts. Et finalement, ce jour-là, ce vendredi matin, alors que tous les autres jours, mes tests d'ovulation étaient négatifs, 24 heures après le dernier, là, il est mais super positif.
D'accord.
Comme si je n'avais pas eu d'intermédiaire.
Oui, pas de pré, pas de signe avant-coureur, quoi.
Oui, alors que depuis l'été, je suivais toujours le même processus où je voyais la barre apparaître petit à petit jusqu'au moment où c'était positif. Et là, ce matin-là, je me lève et je lui dis « Ah, j'ai loupé un truc. Il est positif. Je sais pas où on en est de l'ovulation. Mince, quoi. »
Donc, ouais, mais tu peux pas te dire « j'attends de voir, quoi. Ben
non,
c'est
non,
maintenant, quoi. »
C'est ça. Donc, on se dit « Mais comment on fait ?» Enfin, là, d'un seul coup, nos plans étaient un peu perturbés dans nos super tableaux récapitulatifs du timing. Donc, j'en parle sur les groupes Facebook sur lesquels je suis en disant « Bon, on en est là. Comment on fait ?» Et ce que j'adorais sur ces groupes, c'est qu'on est nombreuses à se soutenir et à réfléchir ensemble. Je trouve ça génial qu'il existe ça. On se sent tellement moins seul.
Oui, c'est sûr.
Donc, nous avons bien réfléchi en équipe et on s'est dit, bon, on va faire ça ce soir. Voilà.
D'accord.
On a calculé à peu près. On s'est dit, bon, au feeling. C'est soit ce soir, soit demain matin. Voilà, donc on décide que ce vendredi soir, on se fera un petit apéro dînatoire devant une série qu'on essaierait de tenir le plus longtemps possible pour pouvoir faire cette insémination dans la nuit.
D'accord, parce que quand le test d'ovulation indique que tu es en ovulation,
oui.
C'est que tu vas ovuler.
Oui, exactement.
D'accord, en fait, pas que tu l'as fait.
C'est ça. Sur ces tests, c'est vrai que je parle beaucoup de timing, mais en fait, ces tests d'ovulation, quand on dit qu'ils sont positifs, ça indique qu'on a notre pic de LH et qu'en fait, on va ovuler dans les 24 à 36 heures suite à ce positif.
D'accord, oui. Donc, ce qui explique que tu dois attendre.
Et oui, c'est ça. Donc, c'est dans les 24 à 36 heures. Et à côté de ça, on doit faire coller le fait que la durée de vie des spermatozoïdes congelés quand on décongèle est limitée aussi dans le temps.
Oui, c'est vrai.
On part sur un minimum, sur une idée de 12 heures.
D'accord.
Même si Krios annonce qu'on peut miser entre 24 et 36 heures, mais quand même la majorité part sur l'idée qu'on est sur du 12 heures. Donc, il faut réussir à faire coïncider tout ce joli petit monde.
C'est ça.
Donc nous, au moment de nos calculs, vu que c'est un peu flou, à ce moment-là, on se dit « bon, écoute, allons-y, on fera ça cette nuit et puis on verra bien ».
Donc à ce moment-là, tu décongèles tes spermatozoïdes ?
Alors, en pleine nuit, au moment d'aller se coucher, où on se dit « bon, allez, c'est l'heure, allons-y ». c'est parti, on décongèle on ouvre le tank, on sort la paillette et puis on s'installe sur notre lit avec tout le matériel partout, le champ stérile.
Ah oui, carrément.
Ah, bah, le but étant de prendre le moins de risques possible.
Oui, c'est ça.
Quand même. Donc, on s'installe tout ça et donc arrive le moment où je dis à Charlotte, mets tes gants stériles. À part qu'elle, elle n'en avait jamais mis et qu'arrive le moment où c'est la pagaille qu'elle s'en sort pas et qu'elle secoue sa main et que ses gants stériles touchent mon pied. Bref, le chaos.
Merde, mince, pardon.
Mais non, mais c'est ça, le chaos. À part qu'on rigole, mais on rigole qu'à moitié parce qu'on est fatigué, qu'on est stressé, que la situation est beaucoup trop stressante. Mm-hmm. Donc je lui dis, mais dépêche-toi, enlève-les, mets du gel hydroalcoolique. À l'époque, c'était facile d'en avoir, donc vas-y, dépêche-toi. Et donc, on nous avait prévenu en plus que voilà, au moment de l'introduction du cathéter, au passage du col, bah, que je pourrais ressentir des sensations pas forcément agréables. Mm-hmm. Donc, on m'avait prévenu tout ça. Donc, on se lance avec quand même un peu d'appréhension, elle, bah, de me faire mal involontairement, mm-hmm. et moi, bah, voilà, de souffrir un peu et que tout se passe bien. Donc, on se lance en rigolant. Je tremble beaucoup, je crois, de stress et d'excitation, de trop d'émotions. Ouais, et puis elle le fait. Et puis en fait, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je sens rien. Enfin, je m'attendais à vraiment des sensations désagréables et un peu douloureuses. Non, tout se passe bien. Et puis ça y est, c'est fait, quoi.
Et elle a aucun doute sur le fait qu'elle a réussi à passer le col, que...
Ah non, oh, elle est sûre d'elle. Là, on est maintenant... On devient des professionnels. Non, c'est évident. Et même, elle rigole parce que forcément, ben, entre le moment où on a fait le petit cours d'anatomie et ce jour-là où, pour le coup, je suis en pleine ovulation, ben, il faut savoir que le col, il se modifie au fur et à mesure de nos cycles. Donc là, pour elle, c'est évident. Elle me dit, mais là, c'est sûr, on y est. C'est sûr, est bon, on est en plein dans l'ovulation. Vraiment, on devient des spécialistes.
Fou. C'est ça, c'est ça.
Donc, on se dit, bon, ben... C'est fait. Nous voilà à 1h30 du matin sur notre lit, à avoir essayé de faire notre bébé. Et puis voilà, tout ça dans le rire. Et on range tout ça, on reprend notre vie ordinaire. Le chien a été malade dans le couloir, il faut nettoyer. Enfin bref,
oui, la vie,
vraiment
la
soirée ordinaire mais improbable. Mmh. Et donc, suite à ça, le lendemain matin, bon, moi, je suis pleine de doutes, évidemment. Et j'ai dit, c'était quand même... ça manquait de contrôle pour moi. J'ai dit, tu te rends compte, on l'a fait là. C'était pas très précis. J'ai dit, est-ce que tu veux regarder mon col? Je trouve qu'on arrive à un stade quand même d'intimité exceptionnelle, hein, mais...
C'est ça, complètement.
Je lui ai dit, écoute, au point où on en est, est-ce que tu veux regarder mon col pour voir? Elle me dit, si tu veux. Donc, elle regarde et elle me dit, mais... Aucun doute. Elle me dit, aucun doute. Tout est fermé à double tour. Elle me dit, maintenant, on a toutes les chances de notre côté. Enfin, là, on a fait ce qu'on avait à faire.
Oh, c'est fou. C'est hallucinant.
Donc, suite à ça, on a attendu. Nous avons attendu chaque jour en disant, il ne faut pas y penser. Ça me fait toujours beaucoup rire.
Impossible.
C'est ça, évidemment, on n'y pense pas. Donc, j'ai essayé de ne pas trop en parler. Mais j'ai beaucoup pensé. Et puis, 11e jour, j'ai commencé à ressentir quand même pas mal de choses dans mon corps. Mais bon, je me disais, non, ne dis rien, c'est dans la tête. Et puis, en fait, j'ai fait un test et le 14 février, il était positif.
Ah, c'est fou. Vous avez réussi.
Ouais.
C'est une histoire de dingue.
Ouais. Et on ne réalisait pas. Enfin,
bah, tu m'étonnes.
Je crois que même les 9 mois, pour nous, c'était tellement improbable qu'on ait réussi comme ça. Mm-hmm. Que ça nous... Non, on n'arrivait pas. On se disait, non, mais ça a été trop facile. C'est pas normal. Les autres galèrent. Et nous, on fait ça après une soirée à boire des bières, à rigoler. Et on fait des trucs complètement fous et ça marche.
Mais, ouais. Vous faites partie de ce faible pourcentage pour qui ça marche presque du premier coup, finalement.
C'est ça. Ouais.
Non, mais c'est vraiment, vous avez une histoire, mais enfin, je pense que, enfin, je ne sais pas si vous raconterez la conception de vos enfants à vos enfants, mais franchement, je pense que ça vaut le détour quand même. Oui.
Ouais, c'est ce qu'on se dit. On se dit que Amaé a été faite tellement de joie, d'amour, de rire. Enfin, on ne pouvait pas espérer mieux. On a eu la chance d'y arriver comme ça et ça répond à toutes nos attentes et besoins. C'est juste dingue, même si évidemment tout ça est illégal et c'est moche et j'aime pas faire ça.
Bien sûr,
mais bon, j'ai aucun regret. C'est tellement juste fou.
Et oui, si c'était à refaire, vous referiez la même chose.
Évidemment, 100 fois.
Évidemment. Ah non, mais c'est ça me met. Franchement, je suis ouf. Je trouve ça génial comme parcours. C'est voilà, ça a répondu. Enfin, vous êtes allé au bout des choses en ne mettant jamais de. Voilà, vous n'avez jamais mis entre parenthèses vos envies pour vous assurer que ça puisse fonctionner.
Non.
C'est bravo.
Je crois que notre histoire a été tellement baladée, je crois, par les autres, par la vie des autres. Enfin, nos débuts, voilà, je pense qu'on a des débuts quand même particuliers. Mm-hmm. Et je crois qu'à un moment donné, une fois qu'on a pu être entièrement libre de nous aimer et de mener la vie qu'on voulait, pour moi, il était hors de question que quelqu'un d'autre puisse se mettre sur notre chemin. Ouais, que ce soit dans notre couple, dans notre mariage, et alors encore plus dans la conception de nos enfants.
Et alors justement, ça a été accueilli comment ce bébé dans vos familles ?
Alors,
je suppose que vous ne leur avez pas raconté la conception ?
Alors maintenant, si.
D'accord.
En fait, on avait fait le choix de ne pas parler à nos familles du moment où nous nous sommes lancés. Mmh. Voilà. Parce que on a considéré que de façon générale, les gens ne crient pas sur tous les toits qu'ils se lancent dans l'aventure du
c'est
bébé.
C'est pas faux. C'est même rare.
Oui. Donc, il était hors de question qu'encore une fois, on se démarque mmh. en faisant différemment. Mmh. Donc, seuls mes collègues étaient au courant parce que voilà, mes collègues, c'est un peu toute ma vie aussi. Mmh. On est tout le temps ensemble. Donc, eux étaient obligés de suivre notre parcours. Et j'étais bien contente qu'ils soient à nos côtés. Mais alors, mmh. nos proches, il était hors de question. Et on s'était dit, ben, on leur annoncera quand il sera là. Donc, nous avons attendu les 3 mois, comme beaucoup de monde. On a attendu la première échographie. On a préparé des petites surprises, comme beaucoup pour nos parents. Mmh. Donc, on a commencé par ma famille, par mes parents. Mon père était plus que ravi. Mon père était... lui qui n'est pas du tout expressif. Pour la première fois, je pense, de ma vie, je l'ai vu dans son regard et entendu dire « Oh, je suis content !» Et ça, wow. Je crois que ça valait tous les sentiments du monde. Mm-hmm. Donc, mon père était ravi. Il n'a pas douté un instant sur la maman qui portait cet enfant.
Ah oui, c'est vrai, parce que
et oui.
La question se posait.
Mm-hmm. Et oui, parce qu'en plus, ça ne se voyait pas encore à ce moment-là. Donc,
oui, tout à fait.
Donc, il a rigolé, il a regardé Charlotte, il a dit ah, félicitations. Et puis, bon, il était content, et très content. Il était prêt à l'annoncer presque sur le journal et appeler toute la famille pour le dire. Ma maman, ça a été, on va dire, pris avec un peu plus d'étonnement. Mais elle est très contente d'être grand-mère aujourd'hui. Mmh. Et je pense qu'elle a réagi comme elle a pu sur le moment en demandant « Ah, mais qui ?» Alors, je dis « D'après toi, ça, normalement, c'est évident pour tout le monde. » Je dis « Mais c'est moi. » Elle me dit « Ah, mais comment ?» Enfin, donc voilà, à partir de là, on l'a expliqué.
D'accord.
Nous, on a fait le choix. On comprend aussi que pour beaucoup, c'est quelque chose de très intime, qu'ils préfèrent le garder pour eux et pour leur enfant. Mais c'est vrai que nous, rapidement, on a décidé de raconter tout ça à ceux qui étaient capables de l'entendre et de l'accepter sans jugement. Mmh. Et aussi, on va dire, à nos parents pour leur expliquer et qu'ils puissent peut-être plus facilement assimiler tout ça. Voilà. Donc, on a raconté à qui on avait envie de raconter parce qu'on trouve que c'est complètement dingue comme histoire et qu'on est super fiers d'avoir fait ça.
C'est clair.
Donc, on a raconté sans souci en disant qu'on voulait surtout pas que ce soit quelque chose de tabou. Et donc, c'est passé comme ça. En effet, les gens sont surpris parce qu'ils ne s'imaginent pas qu'on puisse faire ça. Mm-hmm. Une fois passé l'étonnement, forcément, ben, il y avait quand même un peu d'inquiétude pour nos parents en disant « Mais vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous avez fait au niveau des risques ?» Et puis, on leur explique bien qu'on n'a plus 15 ans et qu'on sait ce qu'on fait. Et donc,
bon, et que c'était un choix fait en conscience, quoi.
Exactement. Donc, petit à petit, mais non, mais c'est bien passé. La famille de Charlotte aussi, son papa, du côté de son papa, très bien. Et sa maman, ben, on n'a plus de lien déjà depuis quelque temps. Donc, donc nous n'avons pas eu à lui annoncer, mais elle sait qu'une petite fille est arrivée. Mais c'est la vie. C'est ainsi.
Oui, tout à fait. C'est la vie de nos familles aussi, hein, hélas.
C'est ça.
Je vais te poser quelques questions de fin d'épisode, parce qu'on y arrive, tout doucement. Donc évidemment, je suppose que vous êtes en procédure d'adoption pour Maï.
Bien sûr.
C'est en cours. C'est pas, a priori, la partie la plus compliquée du problème pour vous.
Du tout.
Est-ce que tu peux me dire si aujourd'hui, pour toi, un enfant, donc en l'occurrence votre petite fille, est heureuse avec deux mamans?
Alors, il est évident que oui. Notre petite fille est en pleine forme. Bon, elle dort pas assez. J'espère que le jour où je m'entendrai dire ça dans cet épisode, elle dormira d'ici là.
Mais je l'espère.
Mais ça, elle est et elle va super bien. C'est un bébé très souriant. Quelque chose l'autre jour que... Donc, elle est chez une nounou. Elle est chez une nounou. Et comme beaucoup de nounous, je crois, on aime bien discuter quand on va la récupérer. Et puis, on en est venu à aborder ben, la conception d'Ama et la réaction de nos familles, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, je lui explique que nous, on fait notre petite vie ben, ici, loin de nos familles, et que c'est mieux ainsi. Et que notre priorité, c'est vraiment ben, notre famille, en fait. Qu'on a formé et qu'on est, on est dans l'amour, en fait. Alors, des fois, ça paraît un peu niais, hein, mais ça, c'est la vie qu'on a choisie, en fait, de s'aimer. Voilà, la priorité, c'est ça. C'est qu'on soit heureuse ensemble, de s'aimer, d'avoir plein d'enfants et qu'on s'aime tous.
Ça fonctionne plutôt.
Et donc, j'explique ça à la nounou. Ouais, et j'étais surprise et ravie qu'elle me renvoie que c'est exactement l'image qu'elle a de nous et qu'on est, qu'on renvoie beaucoup d'amour quand on nous regarde, et de joie, et que Amaé a beaucoup de chance d'être arrivée dans cette famille parce que ça respire la joie et l'amour. Donc je me dis, ben, c'est bon, on a réussi, quoi.
Et c'est ce qu'on perçoit sur votre compte Instagram, hein, clairement.
C'est gentil.
Donc, non, clairement, vous avez une famille qui respire, exactement, qui respire la joie, qui respire la sérénité. C'est vraiment ça, c'est la sérénité.
Ben, c'est ce qu'on essaye, même si... Honnêtement, beaucoup n'auraient pas parié sur ça, mais on va dire que, encore plus avec l'arrivée d'Amaé, c'est évident. C'est évident que, même si, ben, comme tout le monde, des fois, on vit des choses vachement moins sympas. Hein,
oui, évidemment.
On essaye de rester centré sur ça, sur nous, et on fonctionne. On fonctionne très bien ensemble, et voilà. On essaye de faire en sorte que ça soit notre base. Et de jamais s'en éloigner.
Et je pense que c'est évidemment le point de, enfin la ligne de mire qu'il faut se, enfin la conduite qu'il faut tenir. Hein. C'est nos familles avant tout.
C'est ça.
Et je vais donc te poser la dernière question de l'épisode. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ?
Plein de bonheur, des enfants.
D'autres enfants ?
Ouais.
Avec grand plaisir. Alors on va vous souhaiter ça.
Ouais, ça serait chouette, même si. Des fois, je me dis, mais pourquoi ? Mais si, pour avoir encore plus d'amour et voilà, vivre et s'alimenter que de ça. Voilà, être en pleine forme et être dans l'amour comme ça, ici, dans les Landes et rien de plus.
Avec une petite famille tout autour de toi. C'est vrai que les enfants, ça nous apporte tellement. Enfin, moi, je trouve que c'est des révélateurs.
C'est ça, tellement.
Je te remercie beaucoup. D'être rendu disponible. Vraiment, je suis ravie d'avoir pu découvrir votre histoire. Ça faisait vraiment un moment que j'étais très curieuse de découvrir quand tu m'as spécifié quelle était la méthode que vous aviez utilisée. Déjà, j'étais admirative. Et alors là, suite à cet épisode, c'est plus de l'admiration, quoi. C'est juste dingue, incroyable. Franchement, je mettrai, si ça te ne te dérange pas, en lien de cet épisode, ton compte Instagram pour que si jamais des couples souhaitent s'orienter vers cette méthode-là, qu'elles puissent venir vers vous ou demander conseil. Alors je me doute que vous ne pourrez pas les guider parce que ce n'est pas votre métier, mais en tout cas, vous pourrez leur apporter votre expérience.
Bien sûr, pas de souci.
Super, merci beaucoup Aurélia.
Merci à toi.
À très bientôt.
À très vite.
Et voilà, c'est enfin la fin de cet épisode. Je vous rappelle ce que je vous ai annoncé sur Instagram, sur le compte Instagram du podcast @lesenfantsvontbienpodcast. À partir de la semaine prochaine, je repasse sur des épisodes complets chaque semaine. J'ai bien entendu vos frustrations et j'essaye de répondre au mieux. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de le partager, de le faire découvrir et surtout, n'hésitez pas à le conseiller et à conseiller le podcast à des familles qui seraient en plein parcours ou en pleine réflexion quant à leur parcours de conception. Vous savez maintenant, et je vais encore vous le redire, combien il est important de noter aussi le podcast sur vos plateformes d'écoute et d'y ajouter un petit commentaire, ça fait toujours chaud au cœur. Je vous retrouve vendredi prochain, du coup, pour un nouvel épisode complet du podcast Les Enfants Vont Bien. À très vite. Josephine, even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stephens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.